Le thème d'aujourd'hui est une présentation de la psychiatrie institutionnelle. Alors, je vous présente tout de suite mes camarades de plateau. Virginie, bonjour.
Bonjour, Véronique.
Ça va ?
Ça va.
Vous êtes bien installée ?
Très bien.
Bon. Brigitte, bonjour.
Bonjour.
Brigitte, vous prenez déjà des notes. Quel sérieux. Ça va ?
Oui.
Ouais. Bon. Vous êtes bien installée aussi ?
Pareil.
On est pas mal dans la bibliothèque.
Je trouve. Ouais.
Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Enchantée, on ne se connaissait pas, on ne s'est pas croisés.
Première rencontre.
Merci d'être venue pour cette première émission.
Merci à Studio2F de permettre ça.
Oui, tout à fait, on est ouvert à ce genre de choses. Gwenvelle, bonjour.
Bonjour.
Bon, Gwenvelle, je vais tout de suite te passer la parole pour que tu nous présentes le sommaire de cette émission parce qu'elle est riche en contenu.
Très bien. Alors effectivement, on va être ensemble sur Studio2F pendant une dizaine d'émissions. Entre début janvier et fin juin, et d'ici là, on va parler de beaucoup de choses sur le monde de la psychiatrie, avec, comme tu l'as dit, effectivement un angle un petit peu décalé avec ce qu'on peut voir par ailleurs. Alors, dans cette émission, dans la première émission, on va parler d'abord de la psychothérapie institutionnelle de façon générale, voilà, une introduction en douceur. Dans la deuxième émission, on va plutôt parler en particulier du club thérapeutique, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, et des clubs thérapeutiques en général. Qu'est-ce que c'est que cet objet-là en psychiatrie ? Qu'est-ce que viennent faire des associations en psychiatrie ? Et ensuite, on va parler, en rentrant petit à petit dans le détail, dans une troisième émission, par exemple des ateliers. Et puis, progressivement, dans les différentes émissions, on va amener d'autres choses. On va parler de l'interclub qui existe dans Loir-et-Cher. On va parler du truc qui est un regroupement de clubs à l'échelle nationale qui est en train de se construire. On va parler de beaucoup de choses, voilà, petit à petit. Et du coup, moi, je vais passer la parole à Brigitte pour qu'elle nous parle des lieux, comment ça se passe, à quoi ça ressemble déjà, les lieux dans lesquels on travaille.
Voilà, donc, le lieu dans lequel nous sommes actuellement est une bibliothèque accueillante avec des boiseries claires, avec des trois grandes fenêtres ouvertes sur un parc, donc on voit des arbres, et le soir qui tombe, on est bien installé. Et tout autour de cette bibliothèque, il y a des bois, notamment des chênes, et sont disséminés divers bâtiments, certains plus anciens, notamment ce qu'on appelle le château, la partie la plus ancienne du club de la Chênée. Il y a des bâtiments plus récents qui sont épars. La bibliothèque, je l'ai dit, il y a la salle à manger qui est assez récente, janvier 2017, avec au-dessus des parties privées qu'on appelle le patio, qui sont donc des chambres qui accueillent des patients. Il y a d'autres structures assez modernes, récentes. Si je ne me trompe pas, ce sont le Moselle, ce sont les terrasses. Il y a aussi un petit pavillon central où on joue de la musique. Si on prolonge au bout d'un sentier, on va trouver des wagons de chemin de fer qui ne roulent pas, mais qui servent de restaurants, de chambres d'accueil pour des artistes en résidence. Que trouve-t-on encore ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Je ne sais plus. Aide-moi, Anne-Nathalie.
Le boissier, par exemple.
Mon Dieu, le boissier. À toi la parole.
Merci. Du coup, le boissier, c'est un monument qui a été construit en relation étroite avec une école d'architecture de Paris, les soignants de l'époque, donc au milieu des années 70, et puis les patients, ici, ce sont des pensionnaires qui sont accueillis ici, et tout ce beau petit monde a participé au projet de réflexion, de création, du plan jusqu'à la fondation et puis l'élévation de ce grand bâtiment qui est sur, on peut dire, 2,5 niveaux, 3 niveaux et demi, on ne sait pas bien comment on peut le regarder. Il y a tout un tas d'ensembles d'éléments qui ont été pensés par des groupes différents et du coup il y a un agencement comme ça de 3, 4, 5, 6 petits endroits complètement hétéroclites qui forment en fait le bâtiment qui se nomme le boissier. Et ce boissier accueille, c'est un grand espace collectif, un lieu qui est ouvert 24 heures sur 24 pour la majorité des surfaces qui accueillent. Il y a le bureau du club qui se trouve tout en haut, la partie la plus haute, et c'est une partie qui est fermée. C'est un rez-de-chaussée qui accueille des tables de ping-pong, qui accueille les ventes de tabac, la distribution de caisses, qui accueille également tout le monde qui veut s'y poser pour pouvoir rencontrer une personne qui passe, qui peut rencontrer un bar associatif aussi qui ouvre deux fois dans la journée. Et puis il y a un grand foyer, un âtre, qui là ne fonctionne pas actuellement, mais qui s'est fait habiller d'un insert pour pouvoir chauffer un peu plus ce grand bâtiment et puis permettre des échanges tranquillement tout autour du foyer. Voilà, donc le Boissier, c'est un lieu de réunion, c'est un lieu où on vient se poser pour écouter de la musique, pour lire des journaux, pour s'isoler ou au contraire pour venir se laisser aller à une rencontre possible ou non. Voilà, donc c'est un chouette projet, un chouette bâtiment qui est inscrit au patrimoine national. Voilà, qui c'est en fait la première chose que l'on voit quand on rentre par la route dans la chaînée en elle-même.
On peut préciser peut-être que, comme le disait Nathalie, ce Boissier a été dans les années 70 réalisé à la fois par des patients, des soignants et des architectes, dont Fildéric de Bois-Cuillier. Merci à lui, merci à eux. Nous sommes très très contents du résultat.
Oui, pour finir cette présentation, je voulais juste rajouter quelque chose sur le ressenti. Quand on est pensionnaire à la chaînée, en fait, on n'est pas dans une clinique. Il n'y a pas de blouse blanche dans cet espace de verdure. On se sent en liberté. Voilà, et ça, c'est important de le dire, je trouve, voilà, par rapport au ressenti.
Oui. Comme disait Brigitte, ce qui est une vue d'ensemble qu'on peut avoir, c'est que vraiment les bâtiments sont en fait en archipel. Ils sont disposés dans un grand parc qui est au milieu de la nature. Il y a une forêt à côté, la forêt de Russie, où n'importe qui peut aller se promener. Donc les lieux sont ouverts, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de mur, de fermeture, et tout ce beau monde peut circuler librement à cet endroit-là. Et donc voilà, il y a une liberté de circulation qui est importante, qui est cultivée. Donc là, nous, on est tous autour de la table là, d'enregistrement, on est tous adhérents du club. Et pour parler un petit peu de ce que c'est qu'un club thérapeutique, on s'articule à une clinique. Et donc cette clinique psychiatrique, elle a fait des choix qui sont liés à son influence. Elle est influencée par le mouvement de la psychothérapie institutionnelle. Et voilà. Et notamment, la liberté de circulation est très importante là-dessus, puisque depuis le début, je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent ont bien compris, mais on parle bel et bien de psychiatrie, même si on parle de lieux très ouverts comme ça, et de ressenti d'ouverture. Et on va enchaîner.
Oui, ce qui serait bien, c'est que vous présentez maintenant, on vient au cœur du sujet, quoi, hein, qu'on vienne au cœur de ce que c'est que la psychiatrie. Thérapie institutionnelle, excusez-moi, je bute sur le mot tellement il est long. parce que c'est vrai qu'on la psychiatrie, quand on parle de psychiatrie, on sait, je pense que chacun de nous sait ce que c'est, mais la psychothérapie institutionnelle, la psychiatrie institutionnelle, franchement, si on n'habite pas le Loir-et-Cher, ouais, on ne sait pas bien ce que c'est. Et encore, je ne sais pas si en habitant dans le Loir-et-Cher, on sait ce que c'est.
Effectivement. Alors c'est vrai que la psychiatrie, on a tous une représentation qui peut être véhiculée par le cinéma, par les journaux, etc. Hollywood fait beaucoup pour développer une certaine représentation de la psychiatrie, mais qui n'est pas forcément heureuse, ni très juste. Et c'est vrai que, bon, en plus, au-delà de ces représentations-là, bon, il y a évidemment la réalité, bon, des politiques de santé publique. Et il y a aussi, dans le Loir-et-Cher, donc, mais pas seulement, mais c'est très ancré dans le Loir-et-Cher, le mouvement de la psychothérapie institutionnelle. Je pense que beaucoup de Blaisois ou de personnes qui habitent le département ont déjà entendu parler des cliniques de la Borde, de la Chênaie, de Sommery, éventuellement de Fréchine, qui a existé aussi pendant une période entre 1975 et le début des années 2000, mais qui a dû... Voilà, la clinique en elle-même a fermé, mais le club des Jonquilles a subsisté jusqu'à maintenant. Donc, comme quoi les clubs ont bah voilà, perdure, effectivement. et donc, d'où vient le mouvement de la psychothérapie institutionnelle? C'est en réalité, après-guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, des psychiatres militants qui ont voulu réformer la psychiatrie, parce que la réalité des asiles qui vivaient était très, très dure. Il y a eu, le contexte historique a beaucoup joué. Il y a eu beaucoup de morts pendant la Seconde Guerre mondiale dans les asiles à ce moment-là. Et des psychiatres qui étaient très engagés dans leur métier et dans leur... dans leur métier, sur le plan politique aussi, et d'autres soignants ont voulu penser une psychiatrie complètement différente, et notamment, en particulier, le Loir-et-Cher a servi de, entre guillemets, d'expérimentation progressiste à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'il s'agissait de, pour certains psychiatres, avec en tête évidemment Jean Horry, mais l'idée était aussi, avait germé aussi dans la tête de François Tosquelles avant, un autre psychiatre dont on parlera ultérieurement dans d'autres émissions de façon plus détaillée, d'ouvrir des cliniques psychiatriques très ouvertes qui prennent vraiment le contre-pied du modèle asilaire fermé qui existait jusqu'à présent dans des lieux et dans des lieux à l'architecture, enfin dont l'architecture n'avait aucune empreinte de ce milieu, enfin voilà, de cette fermeture là, et notamment des châteaux de la Loire, voilà. Et donc, en 1953, la clinique de la Borde a été ouverte, et puis rapidement, en 1956, la clinique de la Chênaie, et puis Sommery, qui était une clinique qui existait déjà, est devenue aussi influencée par ce mouvement-là dans le courant des années 70. Par à chaque fois, voilà, plusieurs soignants, et le projet de ces cliniques-là, c'était d'aménager un espace pour faire du soin psychiatrique sur un autre mode, où il y ait ce que plus tard ils ont théorisé comme un coefficient de transversalité, mais aussi, bon, plus simplement, de la convivialité, et où la hiérarchie de l'établissement médical pouvait être vraiment atténuée et contrecarrée, entre guillemets, par une autre institution. Et c'est pour ça que les clubs thérapeutiques ont été créés, parce que ces psychiatres étaient tout à fait conscients que dans le milieu de la psychiatrie, quand on parle de maladie, ça n'a pas le même impact sur tout un chacun que quand on parle de diabète, de jambes cassées, dans le milieu hospitalier habituel. En psychiatrie, il y a des représentations qui sont lourdes, et même des diagnostics psychiatriques qui ont été assez, ce qu'on appelle en langage technique, essentialistes, c'est-à-dire comme si le diagnostic disait quelque chose de la personne en elle-même et pas de quelque chose qu'elle porte. C'est autre chose qu'un simple diabète. On stigmatise pas les gens parce qu'ils ont du diabète ou d'autres maladies en particulier. Par contre, en psychiatrie, l'histoire dit autre chose. L'histoire dit qu'il y a besoin de prendre des précautions là-dessus, et donc ces psychiatres-là se sont dit qu'un des outils pour le faire, c'était d'apporter un club thérapeutique, c'est-à-dire un espace qui soit paritaire entre soignants et soignés, soit complètement dévolu aux patients, c'est-à-dire que même dans le Loir-et-Cher, les clubs thérapeutiques n'ont pas forcément le même fonctionnement. À la Chênaie, il est paritaire, à la Borde, c'est plutôt les patients qui font partie du CA de l'association, du conseil d'administration. Mais en tout cas, quels que soient les choix concrets qui ont été faits, derrière, il y avait cette idée-là que la médecine, la psychiatrie, pour faire le travail qu'elle a voulu se donner, quand même, doit adopter aussi un autre discours que le seul discours descendant, médical, qu'on peut avoir par ailleurs. Et c'est là que le club vient faire tiers, va apporter autre chose et va apporter des espaces où on fait les choses ensemble, à plein de niveaux, que ce soit des ateliers ou d'autres choses, on aura le temps d'en parler plus en détail. Et en tout cas, où il puisse y avoir un espace de vivre ensemble, et voilà, de convivialité, de faire les choses ensemble. Et ça, c'était voilà, très, 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 très important, c'était le but principal que se sont donné ces soignants. Et donc, nous, en tant qu'adhérents du club, on parle de cette place-là, c'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes une association dont le but est aussi d'avoir une place dans le milieu de la psychiatrie et puis de véhiculer cette prise de conscience-là, en fait. Ces prises de conscience-là, il y a des enjeux sur le fait de, d'intégrer tout un chacun, quel que soit ce qu'il vit, quelle que soit la maladie qu'il traverse. Et en psychiatrie, il y a beaucoup à faire. Voilà. On a parlé des lieux, on a fait, je pense, une introduction assez... un premier tour d'horizon. Oui, Laetitia ?
Oui, excusez-moi, je pensais revenir sur ce que disait Virginie tout à l'heure par rapport aux blouses blanches. C'est vrai que dans la psychiatrie ou la psychothérapie institutionnelle, effectivement, il n'y a pas de blouse blanche. Hop là, c'est bon. Donc oui, je disais, il n'y a pas de blouse blanche. Et oh là là, le micro. Excusez-moi, je suis désolée. Oui, pour montrer vraisemblablement qu'on est vraiment dans un rapport plus humain entre les soignants et les soignés. Et ça, c'est très important de le préciser. Il n'y a pas ce sentiment de fracture, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, de fracture entre le monde des soignés, le monde des soignants. Et d'ailleurs, on mange tout le jour ensemble. Les repas sont mixtes au sens où on peut manger avec son psychiatre, on peut manger avec les... Et ça, c'est très important, je pense, de le préciser. Et je voulais aussi, pour que les gens se représentent un petit peu ce qui se passe dans la vie quotidienne, par exemple, de la Chênaie, puisque moi, je connais que la Chênaie. Il est important de préciser que il y a un petit peu trois entités, on va dire, hein, je dirais comme ça. D'une part, il y a tous les soignés, les malades. Ensuite, il y a effectivement l'équipe des psychiatres. Et entre les deux, ils font un petit peu sont intermédiaires, les moniteurs. Alors, quels sont les moniteurs ? Les moniteurs sont souvent des psychologues, des infirmiers, des éducateurs spécialisés, éventuellement des aides-soignants. Et eux ont à leur charge tout un secteur. Et la clinique est découpée en différents secteurs. Donc pour bien expliquer le fonctionnement au quotidien, ça marche comme ça. Et pour ne pas s'installer dans une certaine routine, il y a un roulement. Donc un roulement qui dure 4 mois. Et tous les 4 mois, il y a une nouvelle équipe qui s'occupe d'un secteur. Il y a quoi ? Il y a 5, 6, 7, 8 secteurs à peu près. Et voilà, je voulais apporter un éclairage là-dessus parce que ça rend les choses plus précises et plus concrètes. Voilà. Oui.
Pour compléter peut-être ce que tu viens de dire, Brigitte. Laetitia. Oui, c'est Brigitte. Pour compléter un peu ce que tu viens de dire, les différents secteurs, moi j'ai été surprise de ça en arrivant, c'est qu'ils peuvent être aussi bien le ménage, la cuisine, la gestion de quoi d'ailleurs, je ne sais pas, de choses très quotidiennes, l'approvisionnement du matériel pour le boissier. Les secteurs sont très différents et chacun à tour de rôle les connaît. C'est un petit peu comme si on voulait vraiment être ensemble et partager vraiment toutes les tâches. Et je trouve ça plutôt positif.
Oui, je voulais rebondir sur quelque chose. Enfin, non, apporter une nouvelle idée peut-être. C'est qui me semble capital, c'est qu'il n'y a pas d'infantilisation. Et ça, c'est important. On n'est pas, il n'y a pas de, on se sent pas materné. Il y a des responsabilités. On peut en prendre si on en est capable. Si on n'en est pas capable, on nous aide. Et ça, c'est très important par rapport à l'orgueil, par rapport à sa dignité. Voilà. Personnellement, c'est capital en tant que pensionnaire de pouvoir être considéré de la sorte.
Et juste pour rebondir, est-ce que vous savez, parce que Laetitia, vous parliez du fonctionnement de la Chênaie, mais est-ce que vous savez si dans les autres cliniques, c'est à peu près le même fonctionnement ou est-ce que c'est propre justement, est-ce qu'on peut dire que c'est une caractéristique de la pratique de la psychothérapie institutionnelle ? Nathalie.
Alors, nous, ce qu'on appelle les différents mouvements des moniteurs dans les différents secteurs, c'est ce qui nous permet d'être polyvalents. C'est-à-dire qu'en tant que moniteur, se rendre compte de ce que fait l'autre moniteur dans un autre secteur, ça permet d'être conscient de chaque travaux qui sont effectués les uns et les autres. Et de pouvoir tourner sur 4 mois en étant au ménage, par exemple, eh ben, ça peut tous nous aider à avoir des comportements différents sur qu'est-ce que je fais de mon papier, qu'est-ce que je fais du tapis quand je rentre. Parce que pendant 4 mois, on a été sollicité tous les jours à passer le balai, à passer la serpillière, à ramasser les cochonneries que tout le monde dans un collectif peut laisser. Et du coup, ça c'est un exemple flagrant le ménage, mais en cuisine ou en salle à manger ou dans différents secteurs, ça permet de pouvoir mieux travailler ensemble, mieux se respecter, mieux vivre dans le collectif. Et du coup, d'avoir un investissement qui est complètement le plus égalitaire possible parce qu'on se rend compte du boulot que ça demande d'un côté comme de l'autre. Et en ça, ça permet aussi, je vais rebondir et revenir sur le club, il faut savoir que l'adhésion club et clinique, c'est quelque chose de très très fort. Il faut savoir qu'il y a 4 moniteurs salariés de la clinique qui sont mis à disposition de la clinique pour faire fonctionner le club au quotidien, qu'actuellement le club est salarié de 2 personnes également. Et c'est cet ensemble de 6 équipes, d'un pôle salarié de 6 équipes qui peut accompagner au quotidien la vie d'atelier au sein de la clinique, la vie de tiers de tout ce collectif-là, et mettre une ambiance, mettre du soin, mettre des investissements qui sont différents, mais qui seront toujours là, ces investissements, pour apporter un petit plus du vivre ensemble. Et sans ce vivre ensemble, on ne se regarde pas. Sans se vivre ensemble, on n'est pas à se soutenir ou à aller à la rencontre d'eux, à s'observer. Et ce côté collectif, moi je reviens je trouve ça primordial ici, ce côté collectif, c'est on se soutient, on vit une aventure ensemble, on traverse un moment de sa vie ensemble. Et pour que ce moment me soit propre et me soit positif, eh ben, il faut aussi qu'il soit positif pour les autres, pour l'autre. Et c'est en ça que cette adhésion club clinique, mais aussi les autres associations satellites de la Chênaie, là au niveau de la Chênaie, il doit y avoir 5 associations, club compris, en plus de l'institution soignante, entre toutes les parenthèses et tous les guillemets que je peux rajouter. Et c'est en ça que c'est primordial d'être ensemble, de savoir que fait l'autre, qu'est-ce que moi j'ai fait pour pouvoir apporter les petites étincelles de la vie du quotidien à tout à chacun.
Merci pour ces premiers éclaircissements. On se retrouve tout de suite après la pause musicale.
on a fait le choix de sélectionner uniquement de la musique d'artistes qui sont venus jouer en fait au Boissier. Donc le Boissier, effectivement, donc c'est le QG du club de la Chênaie. Une des particularités, c'est que parmi les activités du club, le club a fait le choix d'accueillir des artistes tous les mois depuis le début des années 80. Et donc il y a énormément d'artistes, parfois assez connus, qui sont venus. Alors dans les années à la fin des années 70, même il y avait des jazzmen qui sont venus ici, donc Max Roach et aussi Archie Chip. Mais plus récemment, il y en a d'autres assez connus qui sont venus, Moriarty, Stéphane Grappelli, Magic Malik, Daniel Waro, Bratch, Ahmed Fofana, Barrio Populo, les Blaireaux de Ravel, Paris Combo, Thomas & Co, Jackie Terrasson, et la liste n'est pas exhaustive, il y en a encore d'autres, Jackie Gelin,
Anna Bobovic,
ouais.
Loïc Lantoine,
très bien, et puis il y avait
Graham Allwright qui a passé aussi,
les Sharpers.
Les Sharpers qui ont résidé et qui ont fait un concert, ou même deux récemment.
Très bien. Et donc, du coup, parmi eux, il y avait aussi Pat Brappade. Et donc, c'est le groupe précisément qu'on a écouté à l'instant. Voilà.
Alors, est-ce que ce serait l'occasion de dire 5 minutes sur le club, quelque chose, comment ça fonctionne, le club? On en a parlé déjà, mais bon. Voilà, un peu plus précisément peut-être, Nathalie.
Oui, donc on peut considérer que le club a beaucoup de missions. Il y a quelques missions qui sont essentielles. C'est notamment l'ouverture vers l'extérieur, mais ce n'est pas à sens unique. On permet aux gens de l'extérieur de venir dans l'enceinte par l'intermédiaire du club. Donc là, c'est au niveau des concerts et au niveau des différentes fêtes qui peuvent être proposées. Par les nombreuses associations qui sont satellites à la Chênaie. Donc il y a la fête de juin, qui est la grande fête du club et de la clinique. Il y a également la fête des plantes, il y a la fête du livre, et puis tout est occasion pour ouvrir les portes et inviter les gens à venir participer, à venir partager des moments en commun. On a la chance d'avoir un grand parc, qu'on peut aménager avec quelques stands, avec de nombreux artistes, de nombreuses personnes qui ont envie de partager à travers une parole, à travers une présence, à travers une bombe de peinture. Enfin, il y a tout un tas de supports. Il y a aussi les feux d'artifice. La commune tire son feu le 13 au soir, il me semble, qu'à Chaille. Oui, parce qu'on parle de la Chênaie, mais on ne l'a pas encore située. C'est sur la commune de Chaille. Voilà. Donc il y a le feu d'artifice, oui, qui est tiré ici. Donc il y a tout un tas d'outils comme ça qui permet aux gens de l'extérieur de venir à l'intérieur pour participer. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir cette notion de désacralisation de la maladie, de la psychiatrie, de la maladie mentale. Parce que ce n'est pas que des événements, des faits extérieurs malheureux, malencontreux. Ça existe, mais la personne qui est atteinte de ces maladies mentales n'est pas forcément une personne qui est dans une violence, dans une agression. Il y a de la joie de vivre, il y a des moments partagés, et le club permet ça. Donc les concerts permettent aux gens de venir de l'extérieur à l'intérieur, même s'il n'y a pas de mur, il y a une notion de quelques hectares, quelques dizaines d'hectares, et il y a cette possibilité-là de venir à notre rencontre. Et il y a aussi la possibilité aux personnes qui vivent à la Chênaie, les habitants de la Chênaie, comme on se nomme tous, d'aller à l'extérieur et de pouvoir utiliser, comme à tout à chacun, les bus, les grandes surfaces, tous les magasins qui nous entourent, de pouvoir aller dans notre chère préfecture blaisoise et puis de vivre sa vie de citoyen, de monsieur et madame, comme tout le monde.
Alors justement, je voudrais juste poser une question par rapport à l'ouverture sur l'extérieur. Est-ce que, avec le recul que vous avez, selon le temps que vous avez passé ici, est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'on peut dresser un bilan positif de cette ouverture sur l'extérieur? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que les gens viennent à ces festivités? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire ça marche, quoi? C'est bien.
Il y a énormément d'échanges, effectivement, et il y a de nombreuses personnes habituées ou non habituées qui viennent à ces occasions-là. La fête de la Chênaie, la fête de juin, c'est une fête locale qui est connue depuis de nombreuses années, qui est reconnue également et qui fait date, vraiment, vraiment. Sans oublier, on parle du club, mais il faut savoir qu'il y a d'autres associations qui gravitent tout autour de la Chênaie, qui sont également paritaires, citoyennes. Il y a l'association du Train Vert, c'est un restaurant associatif. Il y a l'association Petit à Petit, c'est une crèche également, qui est dans l'enceinte même de la Chênaie. Il y a le Chêne et la Rose, qui est une association qui promeut la végétation, qui promeut l'environnement, qui promeut, les échanges, qui anime la serre, qui anime le jardin, qui anime la vie de tout à chacun ici. Et puis, il y a également l'EPIC, qui est l'école de la psychiatrie institutionnelle de la Chênaie et qui permet une formation continue en interne pour les stagiaires et moniteurs, avec des intervenants extérieurs ou des intervenants au sein même de la Chênaie. Et puis, cet EPIC aussi est ouvert par l'intermédiaire de séminaires, un séminaire ou deux, voire trois des fois par mois, les lundis soirs, de 21h à 23h. Et c'est ouvert à tous. Et c'est gratuit. Après, il y a une adhésion, mais libre à chacun de s'informer, de savoir la programmation pour pouvoir venir dans les lieux. Voilà.
On reprécisera tout ça sur le site de Studio Zef, parce que c'est important, oui. Oui, oui. Gwenvel.
Donc oui, ces initiatives, ça fonctionne bien et ça fait toutes ces associations, en fait, apporte une très grande surface de contact en fait de la clinique dans le tissu social local. Quand on parle de la fête de la Chênaie par exemple, ça représente selon les années entre 400 et 800 personnes qui viennent à la fête. Quand il y a le feu d'artifice de Chaille qui est tiré, c'est à peu près équivalent. Mais c'est pareil pour la fête de la Borde qui a lieu le 15 août aussi par exemple. Et dans les autres associations, le Train Vert, les personnes peuvent de l'extérieur peuvent manger un super repas en général, il faut le dire, parce que les menus sont très réussis au Train Vert pour pas cher. Et la crèche, par exemple, c'est une crèche qui certes est destinée aux enfants de certains soignants, mais aussi des personnes qui sont soit de Chaille, soit des environs. Et c'est aussi ça fait partie du vivre ensemble à l'échelle locale, où les parents de Chaille et autour s'engagent aussi à ce que leurs enfants, même en tout petit, soient participent de ce contexte-là. L'EPIC, c'est aussi, selon les séminaires, il peut y avoir entre 40 et 60 personnes ou plus qui peuvent venir à des conférences au cours de l'année. Donc ça ramène beaucoup de personnes à la clinique, des personnes tierces qui sont comme tout, monsieur, madame, tout le monde, tout un chacun peut venir à la clinique et aussi au club et soutenir les activités associatives autour de la psychiatrie par différents moyens. Voilà.
Oui, Brigitte.
Parmi les différents artistes qui sont venus, moi je voudrais citer le cirque Eka, que j'ai découvert dans le grand parc de la Chênaie. Imaginez-vous un vrai cirque pour de vrai.
Ils ont installé leur chapiteau là dans le parc.
Un beau chapiteau blanc et rouge avec des stages organisés pour le trapèze, pour plein de choses, pour le jonglage. Ça a vraiment été pour moi quelque chose de merveilleux. Je ne pouvais pas grimper, j'avais des béquilles et une attelle, mais j'ai participé à tout avec les yeux, avec les oreilles. Et c'est assez merveilleux de voir que quelqu'un qui ne se sent pas capable de faire ci ou ça, en une semaine, peut grimper avec toute la sécurité qui s'impose et faire, au bout du compte, un petit spectacle avec les pensionnaires. C'est formidable. Et avoir un cirque dans l'enceinte de la Chênaie, où viennent les personnes de l'extérieur, montre bien que le dedans, le dehors, ça s'entremêle Et c'est assez magique, surtout dans un lieu comme le cirque.
Oui, Virginie.
Oui, je rebondis sur ce que tous ont dit. Et ces gens, en fait, qui viennent lors des concerts, lors des manifestations, peuvent être aussi notre famille, notre conjoint. Et en fait, c'est la seule occasion, enfin, ce sont des occasions, pas la seule, des occasions pour rentrer dans notre monde. Voilà, et ça, c'est important.
Virginie, vous êtes émue en disant ça. Hein. Oui, on le comprend.
Oui, parce que dans d'autres cliniques où voilà, c'est très aseptisé, même les cliniques psychiatriques, on peut en fait, oui, échanger avec ses proches. Mais là, on échange des moments de bonheur, de musique, de joie. Et ça, c'est une autre dimension, de faire connaître notre vie.
Est-ce que, sans transition, Laetitia, vous avez interviewé Rémi, qui est autour de cette table, mais qui n'a pas de micro devant lui. Bonjour Rémi, qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Vous avez interviewé Rémi, et Rémi, vous racontez un petit peu ce que vous avez vécu ici. Oui. Voilà, pourquoi vous êtes là. Et puis, vous dites aussi un petit mot sur le club. Ce que je vous propose, c'est qu'on peut vous écouter. Et puis, si vous voulez intervenir après l'interview, ben voilà, hein, on va vous mettre un micro devant vous.
Bonjour Rémi.
Bonjour.
Tu as 42 ans.
Oui.
Tu es actuellement hospitalisé à la clinique de la Chênaie.
Oui.
Une clinique près de Blois qui pratique la psychiatrie institutionnelle.
C'est exact.
Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en psychiatrie ?
Eh bien, j'ai vu pour la première fois un psychiatre quand j'avais 13 ans, parce que j'avais fait une mini-dépression quand j'avais 13 ans. Et ensuite, j'en ai revu un quand j'avais 19 ans. Et puis ensuite, c'était en 95. Et puis ensuite, je suis allé consulter avec une psychiatre de façon régulière, une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, à partir de 1999. Donc avec elle, on a fait une thérapie qui était assez efficace parce que j'allais bien. Et elle me donnait aussi des antidépresseurs qui fonctionnaient bien. Et elle m'a donné aussi du théralite sur la fin de notre relation. Alors, ensuite, j'ai été psychiatrisé, c'est-à-dire hospitalisé, en décembre 2015, j'ai été hospitalisé dans une clinique qui s'appelle la clinique d'Épinay-sur-Seine. Et donc, qui m'a fait des électrochocs. Donc, un électrochoc, c'est quoi ? C'est on est endormi pendant 5 minutes et on reçoit des impulsions électriques qui nous font avoir comme une crise d'épilepsie, quoi. Donc, c'est un traitement de la dépression résistante. Et ce traitement, en fait, chez moi, a échoué. J'en ai fait 17 électrochocs et ça n'a pas changé mon état, quoi. Sauf au début, ça m'a un peu changé. Ma femme m'avait dit que ça avait changé, mais après, plus vraiment, ça n'avait pas vraiment fonctionné, quoi. Et donc, ensuite, j'ai eu un parcours dans les cliniques privées et dans les hôpitaux publics. Donc, j'ai fait deux cliniques. J'ai fait donc Épinay-sur-Seine et une clinique qui se situait à la ville d'Avray. Et ensuite, j'ai fait deux hôpitaux publics. J'ai fait Créteil, l'hôpital de Créteil, Henri Mondor, avec le service intersectoriel de psychiatrie, où là, c'était des gens qui raisonnaient beaucoup par médicaments, pas beaucoup par psychothérapie. Donc, c'était on trouve le bon traitement et on vous fait sortir rapidement, au bout de quelques jours, quoi, parce que le traitement va tout faire. Et donc, ça, c'était à Créteil. À Créteil, ils m'ont donné une molécule aussi qui m'a rendu complètement surexcité. Et donc, ça n'a pas marché non plus, parce qu'après la surexcitation, je suis tombé dans la dépression. Et donc ensuite, ça a duré 2 ans en fait, c'était cette hospitalisation en psychiatrie classique, et classique entre parenthèses évidemment. Et donc ensuite, je suis allé à la Chênaie le 7 novembre 2017, 6 novembre 2017. Donc là, c'était pas pareil, quoi, c'était différent. Il n'y avait pas de blouse blanche, quoi, des soignants. Donc on vit avec les soignants, on fait des ateliers, on fait des contrats collectifs. Alors un contrat, c'est participer à la vie de la Chênaie Donc il y a des contrats de salle à manger, des contrats de ménage, des contrats de bar, des contrats de cuisine.
Horticulture.
Ouais, horticulture, standard, etc. Standard téléphonique. Donc c'est vraiment intéressant d'être avec les soignants. Les soignants s'appellent des moniteurs. Hein. Et donc les soignants mangent avec nous aussi. Donc ça c'est important. Les soignants vivent avec nous en fait. Quoi qu'ils reviennent chez eux le soir évidemment. Mais pendant la journée, on est vraiment avec les soignants. Quoi. Il y a comme un pied d'égalité. Ce qui est intéressant aussi, c'est le milieu ouvert. On a une certaine liberté, même si on est quand même, contrôlé.
Alors, qu'est-ce que tu entends par milieu ouvert ?
Alors oui, milieu ouvert, en fait, ça veut dire qu'on peut aller et venir librement. On peut sortir de la chaînée, en fait. On peut aller à Intermarché, on peut aller chez le boulanger, on peut aller... déjà c'est pas mal Intermarché le... Ah oui, on peut aller au bureau de tabac aussi tout seul, juste il faut qu'on prévienne qu'on y va quoi. Alors que c'est vrai que c'est pas une chose qu'on trouve dans la psychiatrie classique, on est plutôt enfermé dans un établissement, c'est difficile de sortir, faut demander la permission, etc. puis de toute façon il y a des grilles qui empêchent de sortir quoi. Donc milieu ouvert, je crois que c'est ça, c'est à dire qu'on a une certaine liberté. Pas une liberté absolue, bien sûr, parce qu'on est quand même contrôlé par les moniteurs, quoi, qui s'assurent de notre présence ou de notre absence. Donc il faut dire quand est-ce qu'on sort, hein, par exemple, et pour combien de temps. Mais on peut faire des balades aussi. Moi, je fais des balades à vélo de 1h30, donc je peux aller assez loin. Je peux aller jusqu'à Blois en vélo, et même au-delà de Blois. Et puis on peut courir aussi. On peut aller courir dans la forêt, c'est tranquille, c'est agréable. Donc voilà ce que ça veut dire milieu ouvert, quoi. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant à la chaînée, c'est qu'il y a un club thérapeutique. Donc, le club, c'est une association qui propose du vivre ensemble, qui propose de la citoyenneté, qui propose des ateliers. Donc, les ateliers, c'est très variable. Il y a atelier d'impro théâtral, il y a un atelier de. Comment dirais-je ? De dessin-peinture, il y a de la musculation, il y a de la gymnastique. Il y a un atelier de chant, il y a un atelier musique, il y a un atelier Gazette, qui est le journal de plusieurs cliniques de psychothérapie institutionnelle.
L'Interclub, comme on dit.
Ouais, l'Interclub, voilà, pour les initiés. Et puis, on a aussi la souk, qui est le journal interne. Donc là, on est en train de faire une souk spéciale sur la chaînée. Sur des nouvelles de la chaînée, quoi, un petit peu quel est son présent et quel est son avenir. En fait, plutôt, il y a le passé aussi, donc c'est le passé, le présent et l'avenir de la chaînée. Donc, c'était passionnant à faire. J'ai interviewé des moniteurs, des pensionnaires. Donc, ça, c'était passionnant à faire. Je me suis éclaté parce que je suis journaliste à la base. Donc, j'ai fait, je ne sais plus combien d'interviews, 5 ou 6. J'ai fait les chiffres de la chaînée, combien de patients, combien de soignants. Quel budget, quel résultat net en 2017, etc. Et puis la chaînée en date, quoi. Quelles étaient les dates importantes de la chaînée. Donc la création de la chaînée en 1956. Puis ensuite, en 1959, il y a eu un incendie. Mais le docteur Jean Girard a voulu continuer. Je voudrais dire que depuis 2 mois et demi, ça remonte au 7 octobre, c'est une date assez importante. Il y a eu un basculement entre le fait d'aller mal et d'aller bien. Donc depuis 2 mois et presque et demi, je vais bien. Donc c'est comme si je me réveillais d'une longue nuit de 3 ans, de cette dépression et de ces angoisses et de ces idées suicidaires. Donc là, ça va beaucoup mieux. Alors est-ce que c'est à cause de la chaînée ? Je sais pas. Ou est-ce que c'est à cause de la dynamique de la maladie ? Je sais pas. Parce que je suis resté quand même près d'un an à la chaînée, j'étais malade, quoi, comme un chien. Donc voilà, en tout cas, je suis content. Et après, je vais peut-être aller en hôpital de jour. Donc ça consiste à aller à l'hôpital la journée et à dormir dans un appartement la nuit. Donc j'ai un projet hôpital de jour qui serait le prélude à ma sortie définitive, quoi, parce que j'ai envie de retrouver mes enfants, ma vie normale, peut-être mon boulot, etc. etc. quoi. Donc ça, c'est pour l'avenir, quoi. J'essaye d'être optimiste.
Maintenant, on va parler un petit peu de tout ce que fait le comité spectacle qui est organisé par le club.
Oui, donc le club, par le comité spectacle, par les spectacles qu'il propose, le club participe à l'ouverture de la chaînée sur le monde extérieur. Donc l'extérieur vient à la chaînée à travers des résidences d'artistes, des résidences de groupes de musique, et aussi l'invitation de gens extérieurs. Par exemple, lorsqu'il y a BD Boom, le club invite des auteurs de BD à venir parler. Enfin, j'espère que c'est le club, que je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, les résidences, c'est des troupes de théâtre ou d'expression libre ou des groupes de musique qui restent en général une semaine à la chaînée. Donc, on peut participer aux répétitions, on peut assister aux répétitions, on peut assister à le travail en train de se faire, en fait. Et à un moment donné, je me rappelle, on avait une troupe de théâtre qui avait fait participer les chaînéens à leur spectacle. Donc, on allait répéter toute la semaine. Et après, c'était super, on avait... Le spectacle, c'était l'histoire d'un sous-marin qui, un peu loufoque, qui naviguait dans la mer, quoi, le U-713. Donc il y a eu aussi des concerts par des groupes. Alors les concerts, c'est une fois par mois, exactement. Et donc lors des concerts, il y a pas mal de gens extérieurs à la chaînée qui viennent, quoi. Donc ça, c'est agréable, ça change un peu, ça ouvre les horizons, quoi, plutôt que rester dans son coin. Donc le club a cette fonction comme ça d'amener l'extérieur... À la chaînée, quoi, ce qui est une bonne chose, parce que même si on est en milieu ouvert, on peut être aussi renfermé sur soi-même. Et donc le club, alors moi j'y suis au club, je suis au comité d'administration du club, donc c'est un endroit où on décide des orientations du club, où on décide notamment des achats à faire, voilà, des conventions à passer avec d'autres organismes comme la région centre. Et donc c'est vraiment le cœur battant de la chaînée. C'est ce qui permet vraiment une ouverture sur autre chose que le soin, quoi. Et donc, c'est en même temps du soin parce que c'est un club thérapeutique. Et donc, on va en fêter ses 60 ans l'année prochaine, en 2019, puisque le club a été créé le 1er janvier 1959. Et donc, les clubs, c'est quelque chose d'important. Les clubs thérapeutiques, c'est quelque chose d'important dans la psychothérapie institutionnelle. C'est une des conditions de la psychothérapie institutionnelle.
Eh bien, merci Rémi pour toutes ces explications et ton éclairage sur la psychiatrie.
Avec plaisir.
Bon, merci Rémi de vous être prêté au jeu de l'interview. Laetitia, vous avez rondement mené l'affaire, hein, bravo. Hein. des réactions comme ça, spontanément, Virginie?
Ouais, alors ouais. Moi, je voulais dire un grand bravo à Rémi, parce que c'est pas évident de témoigner, de se mettre à nu. Devant, de surcroît, des personnes qui vont nous écouter et qu'on ne connaît absolument pas. Donc, bravo. Voilà.
Brigitte ?
Émue aussi parce que nous avons entendu tes mots, Rémi, puis nous, on va se recroiser. Et oui, c'est courageux. Et tu as raconté tout ton parcours. Il est dense, il est riche. Et... voilà, de le partager, c'est déjà énorme. Merci les ondes, parce que ton parcours va voyager. Mmh. Voilà.
Rémi, le fait de vous réécouter.
Ah oui, c'était intéressant, quoi. J'ai pu voir que j'avais une voix un petit peu reconnaissable. Et puis, sur le fait que j'aille mieux, en fait, ces derniers jours, j'ai un peu rechuté, quoi. Donc c'est un peu dommage. J'ai l'impression d'avoir tout repris à zéro, on va voir. Parce que j'ai pas eu un bon week-end, en fait. Et voilà. Bon, on va penser que ça va s'améliorer. Il faut jamais dire non. Il faut jamais désespérer, quoi. Et voilà. Et donc, j'ai été ému de la réaction des autres, quoi. Parce que pour moi, c'était juste mon histoire, mais il n'y avait rien d'extraordinaire. Donc, voilà, quoi.
Vous avez quand même confié beaucoup de choses très, 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 très personnelles, en fait.
Ouais, moi je dis tout, je suis pas pudique.
Bah ouais. Personnellement, en même temps, enfin très éclairante aussi, oui. Sur le parcours de vie ouais. Qu'on peut finalement tous traverser. Hein. Enfin, je veux dire, on se sent pas. J'ai pas l'impression d'entendre un extraterrestre, quoi. Ouais. Hein, c'est vraiment. non, mais c'est vrai. Hein,
merci.
C'est pour situer un peu. C'est très dans la réalité en même temps. Ouais. Hein. Donc oui. Merci. Ouais,
il y a beaucoup d'humanité.
Ouais, beaucoup d'humanité, ouais, exactement.
Tout merci.
Brigitte,
envie de rajouter quelque
oui,
chose.
Oui, bien sûr.
Après avoir entendu Rémi parler, ça me faisait penser au service très important qui est proposé au sein du club. C'est le service V, service vigilance. Seulement, je ne saurais peut-être pas bien en parler. Je sais simplement que je ne le connaissais pas ailleurs, puisque j'ai connu deux autres cliniques. Et personnellement, je me disais, oulala, en une heure et demie de temps, se promener partout, une seule personne, avec une liste de tous les patients, pour essayer de tous les trouver. Et quel boulot! Et ceci plusieurs fois par jour. Alors je me disais, je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, pour moi, patiente, c'est extrêmement rassurant, parce qu'il y a des moments où on a envie de s'isoler. Alors, pour être avec soi, pour réfléchir, pour flâner, parce que le jardin, le parc sont magnifiques, mais aussi pour pleurer dans son coin, pour se cacher comme une petite souris, parce que c'est dur de lâcher prise devant les autres. Et je trouve que c'est extrêmement rassurant de savoir qu'il y a des gens qui ont pour fonction, plusieurs fois par jour, de savoir où l'on est. Ça veut dire que quelque part, on a le droit d'aller craquer quelque part dans un petit coin de souris. On va nous trouver, on va savoir où on est. Mais c'est énorme. Et ceci plusieurs fois par 24 heures. Moi, je trouve ce service fabuleux. Je dis bravo et voilà.
Merci Brigitte. Merci. Il nous reste une minute pour dire qu'on se retrouve le mois prochain. Hein, ah oui. Avec Gwenvel, j'ai pas toutes les thématiques en tête, mais sur ces 10 émissions, on va avoir beaucoup de choses à dire,
oui,
je crois.
Il
y a beaucoup de boulot là. Hein.
Ouais. On reparlera du club, on parlera des ateliers, on reparlera
des
beaucoup
ateliers,
de choses.
Voilà, exactement. En tout cas, je voulais tous vous remercier chaleureusement d'avoir participé à cette première émission de Kaléidoscope. Vous pourrez retrouver donc cette émission en podcast sur studiozef.fr et sur le bazar sonore et visuel modulationfréquente.fr au pluriel. Merci à tous et à toutes et à très bientôt.
Merci,
merci,
merci
beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Merci
beaucoup.
Yes, yeah, c'est cool, hein.
Ouais.
I'm not the one who's running out of time.